Il est temps de faire une trêve. Frères et sœurs, nous remplissons notre rêve, nous oublions la beauté et puis vient le culte où Dieu nous précède. Est-ce que nous courions éperdument? Voici le culte, un temps gratuit pour vous dire que la grâce et la paix vous sont données. Alors nous allons possiblement ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu, nos cœurs à sa présence et nos yeux sur la beauté du chemin qu'il vient éclairer. Amen. Je vous invite à vous lever pour ne chanter qu'une seule strophe qui sera suivie de la louange au Seigneur. C'est le 1407, page 217, strophe numéro 1. Chaque battement de nos cils, de notre cœur t'appartient. Nous venons existants comme nous pouvons et nous te disons notre confiance car tu es là, fidèle. Quand les chemins sont clairs et quand ils s'assombrissent, nous avançons en ton nom. Nous avançons sans crainte avec cette force que tu donnes. Nos voix peuvent s'unir en ce jour comme des rivières rejoignent la mer. Tu es la source. Dans notre communion simple, nous trouvons du courage. Nous te rendons grâce, non par obligation, mais parce que tout en nous t'appelle et te cherche. Nous allons chanter maintenant le chant suivant, mais une précision, ce chant, vous l'avez souvent entendu dans des cérémonies d'obsèques, alors qu'il n'est pas spécialement fait pour ça, et je voulais que pour une fois, nous osions le chanter d'une façon, et j'avertis notre pianiste, d'une façon un peu leste, sans trop non plus de débordement, bien sûr. C'est le 4807, et attention, nous y chantons les strophes numéro 1, 2 et 4, page 766, 4807, 1, 2 et 4.
Thank you.
bonsoir. Mon chant brave l'orage. Je vous invite à cette prière de conversion, à la dire ensemble. Elle est sur notre feuille. Seigneur, nous venons à toi simplement. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos détours, loin de toi, loin des autres. Pardonne-nous pour ces moments d'égarement. Aide-nous à revenir, laissant de côté nos craintes, nos fardeaux. Donne-nous aussi la force de pardonner et d'aimer sans plus trop de conditions. Oui, nous te remettons nos doutes et aussi nos manques, et pour être éclairés, guidés, nous nous retournons vers toi. La grâce de Dieu est offerte, libre, puissante. Vous êtes pardonnés, allez en paix. Amen. Dieu nous appelle à agir avec droiture. Nous appelle à choisir la justice et la bonté en toutes choses. Écoutons cette parole du prophète. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Seigneur, nous voici assemblés pour ta parole, attentifs, cœurs ouverts, prêts à recevoir ce que tu veux nous dire. Viens faire éclater nos résistances, renverser les certitudes qui pourraient nous enfermer et secouer en nous ce qui sommeille. Que ta parole creuse en nous un chemin neuf. Nous n'allons pas te demander des mots doux, mais plutôt la vérité qui façonne, une voix qui réveille. Parle, Seigneur, nous sommes ici, prêts à entendre. Et écoutez, amen.
Dans l'évangile selon Marc, nous lisons au chapitre 12, les versets 28 à 34. Un des scribes, qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit: « C'est bien, maître. Tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit: « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger.
Thank you.
Parfois, comme certains passages musicaux, comme celui-ci, parfois les textes du jour viennent simplement vers nous pour nous apaiser. Aujourd'hui, avec cette discussion bienveillante entre Jésus et un scribe, c'est le cas. C'est vrai que les textes qui surgissent habituellement dans nos lectures des dimanches en particulier, ces textes présentent très souvent une tension, un conflit. Mais on le sait, sans tension, pas d'histoire. Chacun de nos évangiles est d'ailleurs construit ainsi, construit dans une tension qui dessine un chemin vers ce qu'on pourrait appeler une apogée dramatique. D'ailleurs, chaque micro-histoire, chaque morceau de texte qui parsème nos dimanches, chaque récit est un, on pourrait dire, un sédiment supplémentaire vers l'inexorable de Pâques. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, un scribe, probablement lié aux pharisiens, vous connaissez les pharisiens, peut-être un petit peu à part, puisqu'un scribe, c'est quelqu'un qui est considéré comme un érudit, c'est quelqu'un qui, par exemple, grâce à son érudition, peut rendre des services d'écriture. Mais c'est vrai qu'à cause de la façon qu'ont les évangiles de représenter les pharisiens et les scribes comme des antagonistes, on pourrait ici s'attendre à un piège dans cette rencontre, mais non. Ce scribe-là s'était sans doute réjoui de la façon dont Jésus avait répondu aux Sadducéens. J'y viens, c'est l'histoire qui avait été relatée dans l'épisode juste précédent dans Marc. Les Sadducéens, on va dire ça d'une façon un peu caricaturale, ce sont les adversaires des pharisiens, et aussi dans les évangiles, les adversaires de Jésus. Donc c'est un peu les adversaires de tout le monde. Les Sadducéens, on le rappelle, ce sont ceux qui tiennent le temple, qui tiennent l'organisation du temple, qui tiennent l'organisation des sacrifices qu'il faut faire selon la loi écrite. Et contrairement aux pharisiens, ils ne croient pas, par exemple, à la résurrection. Les Sadducéens se réfèrent à la loi écrite, qui effectivement ne fait pas mention de la résurrection. Mais les pharisiens, eux, comme les, ou en tout cas est très proche ce scribe des pharisiens, les pharisiens, se référant officiellement à ce qu'on appelle la loi orale, alors c'est un peu compliqué, mais il faut quand même faire de temps en temps cette distinction, ils se réfèrent à ce qu'on appelle la loi orale, une loi donc orale, supposée avoir été transmise par Moïse lui-même à toute une nuée de transmetteurs. Eh bien les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection, comme Jésus. Ce scribe de tendance pharisienne semble donc se réjouir de voir un Jésus qui est finalement un peu comme lui. Alors, quand il pose à Jésus la fameuse question de « quel est le premier des commandements ?», ce ne serait pas dans ce contexte une question piège, mais peut-être une vraie question. Et je m'attarde 2 secondes, je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué que personnellement, quand je pose une question, c'est dans l'intention d'avoir une réponse. Je suis souvent étonné quand je finis par m'apercevoir que certains de mes interlocuteurs pense que quelque chose était caché derrière la question que j'avais posée. Non. C'est peut-être ce qui est décrit ici, et peut-être décrite une vraie question pour avoir une vraie réponse. Alors je note au passage, comme un petit apport éthique de la vie quotidienne, je note au passage de continuer finalement, de réserver mes questions dans le sincère souhait d'avoir une réponse et pas dans une intention tordue. Alors Jésus répond, évidemment, et on verra à la fin comment il a procédé pour répondre, mais pour l'instant, on va s'intéresser au contenu de ce qu'il répond. Il répond en citant le commandement biblique appelé le chemin Israël. Écoute Israël, ça veut dire tiré du livre du Deutéronome. Et si je peux me permettre, c'est très judicieux de commencer par l'injonction d'écouter. C'est la base. Car comment pourrions-nous en effet mettre en pratique les commandements sans d'abord avoir fait l'effort d'écouter le Dieu un, dit le texte, qui parle. Tu écoutes d'abord et ensuite tu agis. Tu écoutes globalement et ensuite tu peux pratiquer, agir. Sans l'écoute préalable, au sens plein, tu ne serais finalement qu'un perroquet humain disant des mots, appliquant la morale, distribuant des injonctions, mais sans aucune consistance, sans aucune réelle compréhension. Et comprendre, je vous le rappelle, ça veut dire prendre avec soi, c'est-à-dire s'en prendre avec toi, finalement, l'au-delà des termes même des commandements. Écoute. C'est le plus grand commandement biblique et c'est normal que Jésus le cite comme le premier des commandements. Ensuite, Jésus continue de citer le Deutéronome en disant, dans la ligne de ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force, mais il précise et ose ajouter un terme qui est celui de l'intelligence. Car la mention de l'intelligence n'est pas faite avec cette précision dans le texte originel. Pourquoi le scribe ne réagit-il pas face à cet ajout ? Il est quand même suffisamment cultivé pour savoir que peut-être il y a un ajout là, ou en tout cas une précision par rapport à une formule peut-être plus vague. Pourquoi il ne réagit pas ? Mystère. Ou on remarque peut-être que partout où Jésus est confronté à cette question, les évangiles mentionnent à chaque fois cet ajout. Il y a même une fois où il est relaté dans l'évangile de Matthieu que Jésus, toujours en répondant à cette question, dit la phrase et supprime le mot « force » avec toute ta force, supprime cette expression, mais maintient celui, le terme de l'intelligence. Pourquoi le scribe ne réagit-il pas ? Peut-être qu'il est troublé dans la connaissance de ses références. Qu'est-ce qui était écrit finalement ? Ou alors il trouve ça intéressant d'ajouter l'intelligence à tous les moyens pour aimer Dieu, pas que le cœur, pas que l'âme, pas que la force, mais aussi la sagacité. Peut-être même, j'extrapole, qu'il est flatté en entendant la réponse de Jésus, invoquant peut-être son intelligence à lui, le scribe. Et puis, bien que cela ne corresponde pas à la question initiale, Jésus continue, et voilà. Et là, on reconnaît bien notre maître. Il continue en ajoutant un second commandement, une citation du Lévitique. Donc ailleurs, il rajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors je sais que vous connaissez ces phrases, mais je vous les remets dans le contexte. Il ajoute donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors précisons, il ne dit pas ici, dans ce texte de Marc, contrairement à ce qu'il fait dans les passages similaires, que ces deux commandements sont exactement semblables, mais il dit simplement que les deux sont les plus grands de tous, sans préciser une hiérarchie ou quoi entre les deux. Mais on sent que le premier est quand même le premier. Précisons encore, et sans développer, mais juste pour rester attentif, pour ne pas tomber dans une interprétation erronée et hélas habituelle de cette seconde citation, « Aime ton prochain comme toi-même », que vous connaissez par cœur, qu'il ne s'agit pas ici d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Mais qu'il s'agit d'aimer son prochain comme s'il était nous-mêmes. C'est une nuance. Mais une nuance qu'on pourrait juger subtile, oui. Mais, encore une fois, qui est, comme toutes les nuances, capitale. Bref, la réponse du scribe à la réponse de Jésus reste dans ce ton bienveillant qui, je le répète, est remarquable dans ce passage. Le scribe félicite Jésus, on a même l'impression qu'il le reconnaît Jésus comme un père, comme un enseignant de la même valeur que lui, à tel point qu'il ajoute même un commentaire, le scribe, un commentaire probablement en lien avec les pratiques qui ont lieu au temple, il dit, c'est plus, tout ce que tu viens de dire, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Alors, c'est un premier trait ironique dans ce récit. Un récit où semble s'établir, et c'est pour ça que c'est assez reposant, ce récit, où semble s'établir juste un moment, une véritable connivence entre Jésus et ce scribe. Alors certes, le texte ne va pas que comme ça, mais déjà, si on pouvait garder ça, que pour une fois, là, il n'y a pas de conflit. Une connivence qui s'établit contre les pratiques qui ont lieu au temple. Des pratiques qui pourraient se faire sans cette écoute préalable qui donne du sens à toutes nos actions. Mais si la bienveillance reste, l'ironie continue. L'ironie se propage, et de façon plus évidente dans la transcription de la pensée de Jésus qui voit, dit le texte, que le scribe avait répondu judicieusement. Répondu judicieusement. Ironique, car au départ, c'est quand même le scribe qui avait posé la question initiale. Et en conclusion, sommet de l'ironie, ce que Jésus dit au scribe, il lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». J'imagine une représentation théâtrale de ce dialogue avec beaucoup de silence entre les acteurs, entre les paroles de l'un et de l'autre, avec beaucoup de regards. Et j'imagine aussi la tête du scribe, ne sachant pas vraiment si Jésus lui a fait un compliment ou s'il lui a effectivement dit qu'il n'était pas dans le royaume de Dieu. Même s'il était proche, vous avez déjà entendu ce type de compliment, non? Vous m'en direz plus au café si vous avez une formule qui vous reste en tête, qui vous est restée gravée là. Quand vous rentrez chez vous sous une pluie battante, en plein dans l'averse, vous êtes peut-être presque arrivé chez vous, mais vous êtes encore trempé. Le texte se termine, et on comprend mieux pourquoi, j'espère, il se termine comme ça, et on comprend mieux pourquoi personne n'osait plus l'interroger, Jésus, après ça. En effet, on comprend mieux pourquoi il faudrait y réfléchir deux fois avant d'aller interroger Jésus. Résumé. Jésus était censé répondre à une question concernant le premier commandement, et brillamment, il en a en effet cité un qui est notoirement incontestable comme le premier des commandements. Mais ensuite, il a ajouté le facteur de l'utilisation de l'intelligence au cas où, face à un interlocuteur probablement interloqué et en tout cas réveillé dans ce domaine. Celui-ci, l'interlocuteur, le scribe, malgré toute cette bienveillance réciproque, va dès lors subrepticement passer de la position du maître interrogateur à celle de l'élève qui, sans même s'en apercevoir, répond. Et enfin, qui va s'entendre dire que le royaume de Dieu, malgré les compliments qu'il adresse à Jésus, il n'y est pas encore. Oui, réfléchir à deux fois avant d'aller interroger Jésus, mais de même avant d'aller interroger n'importe quel texte des évangiles. Amen. Nous pouvons nous relever pour exprimer ensemble ces quelques paroles de confession de foi que vous trouvez sur votre feuille. Nous croyons en toi, Seigneur, toi qui tisses ta présence dans chaque instant de nos jours, simplement, comme des cadeaux inattendus. Tu as pris corps parmi nous, dans la fragilité, la poussière et le rire. Et ta parole se pose sur notre peau, légère comme un souffle. Nous croyons en ta présence, dans un sourire offert, un geste heureux, dans des moments où l'humanité se fait visible. Aujourd'hui, nous affirmons notre foi en toi qui nous façonne, qui nous accompagne. Guidés par ta parole, nous te suivons. Amen.
Thank you. nous invite à l'intercession, à la prière des uns pour les autres. Seigneur, nous venons devant toi conscients de nos faiblesses et te portons nos frères et sœurs en humanité comme nous-mêmes. Pour ceux et celles qui subissent les foyers de guerre, qui voient leurs maisons brûlées, leurs espoirs brisés, pour ces douleurs infinies que rien ne console, nous te prions. Seigneur, pour les enfants qui voient le monde à travers des yeux marqués trop tôt, pour ceux et celles qui ne connaissent que la faim et la peur, qui demandent une amicalité que le monde leur refuse, nous te demandons d'intervenir dans leur vie, de susciter pour eux un soutien réel. Nous confessons aussi, Seigneur, notre propre part d'idiotie, nos hypocrites détours, là où nous pourrions agir, et tous ces faux-semblants qui parfois cachent nos responsabilités. Aide-nous à faire tomber le masque de la comédie pour nous engager vraiment avec courage. Pour ceux qui souffrent sous les effets du dérèglement de la nature, ceux qui vivent dans l'incertitude et le manque, pour ceux qui espèrent un retour à des jours plus cléments, nous te prions d'ouvrir pour eux des chemins d'espérance. Apprends-nous la lucidité, à ne pas détourner nos yeux de la réalité, et donne-nous le courage d'œuvrer avec fidélité pour que chaque douleur trouve un écho dans notre prière et dans nos actes. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Remets ta vie jour après jour, cherche son règne et sa justice. Et maintenant, c'est le temps de la bénédiction. Que le souffle de Dieu vous fortifie. Que le souffle de Dieu vienne renouveler en vous l'audace de croire. Qu'il vous garde aujourd'hui, dans tous les jours qui viennent. Amen.